Vous aimez le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai qu'un mot à vous dire alors, que vous l'aimiez plus encore. Ce mot ne devrait pas vous étonner. L'apôtre Paul l'a prononcé, si je puis dire, à sa manière, dans un discours qu'il, une lettre qu'il a adressée à l'église de Philippe en Macédoine. Et je vous propose donc ce matin de relire ce texte très court de la lettre aux Philippiens, précisément. Au chapitre 1er, nous lirons les versets 9 à 11. Et voici ce que je demande dans mes prières, écrit l'apôtre. C'est que votre amour augmente de plus en plus, qu'il augmente en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ainsi, après l'action de grâce qui précède dans les versets 3 à 8 de cette lettre, la requête, et voici ce que je demande dans mes prières. Et que demande donc l'apôtre à Dieu pour les Philippiens? Que leur amour ne cesse pas de grandir. Que leur amour ne cesse pas de grandir. Et voici ce que je demande dans mes prières, écrit-il, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Notez bien que pour l'apôtre, les Philippiens aiment déjà, comme vous aimez déjà, si j'en crois votre réponse, le Seigneur en particulier, à qui ils doivent avoir reçu et grâce et paix. Mais il leur faut aimer davantage encore. Que votre amour augmente de plus en plus. Et la formulation retenue ici par Paul est très expressive. Elle évoque le franchissement d'une limite, un débordement, un excès, une surabondance. C'est que les bornes habituelles sont dépassées. On est entré en plein dans la démesure et donc dans l'incomparable. On n'aime jamais assez, a écrit quelqu'un, ou plutôt, on n'est jamais assez réceptif à ce don qui doit croître sans cesse hors de toute limite. Ce que Paul désire donc, et que l'amour de ses frères et sœurs macédoniens, dont il se félicite par ailleurs, n'en finisse pas de grandir. Un vœu qu'il est grand temps, me semble-t-il, de faire nôtre ce matin pour nous-mêmes. Il plaise à Dieu que l'amour que nous avons pour lui, et nous l'aimons, lui qui nous a aimés le premier, que cet amour que nous avons pour lui soit chaque jour un peu plus profond, un peu plus vif, un peu plus intense, un peu plus ardent. Nous estimons peut-être l'aimer déjà beaucoup. Aimons-le plus encore. Toujours plus. Sachant qu'en la matière, il n'est de bonne mesure que la démesure. Il nous faut maintenant nous poser la question pourquoi. Pourquoi est-il important, non seulement que nous aimions Dieu, mais encore que nous l'aimions toujours plus. Pourquoi? La réponse est dans la suite de notre texte, parce que c'est en l'aimant ainsi, chaque jour davantage, que 1. Nous parvenons à une meilleure connaissance. 2. Nous acquérons plus de discernement. Et 3. Nous peaufinons notre préparation pour le jour de Christ. Trois objectifs majeurs de toute vie chrétienne authentique que je vous propose de reprendre maintenant un à un. Et d'abord, celui-ci, c'est en l'aimant toujours plus que nous parvenons à une meilleure connaissance. Ce que je demande dans mes prières, écrit l'apôtre, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que désire l'apôtre ici? Clairement. Clairement que l'amour des Philippiens, et le nôtre par la même occasion, en s'enrichissant de jour en jour, 1. Nous introduisent dans une meilleure connaissance, et 2. Nous impartissent une plus grande intelligence. Quelques mots sur les deux termes retenus par Paul pour décrire l'effet initial d'un amour qui va de progrès en progrès. Connaissance, d'abord. Il ne me paraît pas douteux que connaissance est à prendre ici dans son acception biblique, que je résumerai volontiers par un mot, intimité. Intimité. Intelligence, ensuite. Il était noté que le mot n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Mais son sens est assez clair. Sensation, perception, puis discernement, sensibilité, et enfin, tact. Voilà pour le vocabulaire, le message maintenant. En bref, ce que Paul désire pour nous, autant que pour ses amis grecs, c'est que nous vivions dans une communion toujours plus étroite avec Dieu, que nous entrions avec lui dans une intimité toujours plus forte. Une intimité toujours plus forte. Pourquoi ? Afin que le connaissant, lui, de mieux en mieux, nous puissions, dans n'importe quelle circonstance, sentir immédiatement l'attitude qu'il convient que nous adoptions pour lui être pleinement agréable, en toutes circonstances. Car tel est bien le but qui nous est fixé, que nous soyons capables, enfin, de percevoir d'instinct, ou presque, ce que Dieu approuvera et ce qu'il réprouvera. Or, un tel pouvoir d'intuition implique que nous soyons les amis du Seigneur. Et son développement, que nous nous rapprochions toujours plus de lui. Et comment nous rapprocher toujours plus de lui, autrement qu'en veillant à ce que notre amour pour lui ne cesse pas de croître? Puisse donc notre amour pour Dieu abonder de plus en plus, pour que grandissant toujours dans sa connaissance, nous puissions parvenir au point où il n'est plus nécessaire qu'il nous dise ce qu'il attend de nous, nous le savons déjà. Dieu, notre ami. Pourquoi est-il si important que notre amour pour Dieu abonde de plus en plus? Première réponse, donc, parce que c'est en l'aimant toujours plus que nous parvenons à cet objectif majeur pour nous, qu'est la connaissance, et plus précisément cette connaissance qui rend naturellement, instinctivement, si je puis dire, sensible à la volonté de Dieu. Mais il est une deuxième réponse qu'il nous faut donner maintenant. Pourquoi faut-il que notre amour pour Dieu ne cesse de s'enrichir? Parce que c'est en l'aimant toujours plus que nous acquérons un plus grand discernement. Ce que je demande dans mes prières, écrit Paul, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ce que Paul attend des Philippiens, et de nous tous par la même occasion, et que nous progressions toujours en matière de discernement, en d'autres termes, que nous soyons chaque jour un peu plus perspicaces. Alors, deux mots sont importants ici. Le verbe rendu par discerner dans notre Bible. C'est un terme qui était cher aux stoïques et qui exprime l'idée de test, d'épreuve, d'examen. On l'employait en rapport avec les métaux, avec la monnaie, mais aussi en lien avec les animaux, dont il fallait jauger les qualités. Alors son sens a évolué, bien sûr, d'où ces traductions possibles, estimer, choisir. Le participe ensuite, littéralement, les choses importantes. Dans la philosophie grecque et hellénistique, il désigne couramment ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, ce qui est vital. Ainsi, ce que l'apôtre espère de nous, autant que de ses amis macédoniens, est que nous apprenions à tout tester soigneusement, pour distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, et accorder systématiquement notre préférence, bien sûr, à l'essentiel plutôt qu'à l'accessoire. C'est ce que la Bible appelle le discernement. Cette capacité héritée de Dieu lui-même de reconnaître à chaque chose sa vraie valeur et faire le tri sans complaisance, parce que toutes les pensées, rêveries et autres divagations de l'esprit n'élèvent pas de la même manière, parce que tous les propos, discours et autres dissertations n'instruisent pas également, parce que tous les gestes, réactions et autres comportements de notre part n'édifient pas de la même façon. L'appel est donc au discernement, en vue d'une vie qui ne serait plus qu'une suite de choix réfléchis, inspirés et de ce fait incontestables. Maintenant, la question se pose, quel lien y a-t-il entre ce discernement attendu de nous et l'amour de Dieu? Réponse. Pour pouvoir distinguer correctement entre les choses et ne s'attacher qu'à celles qui sont réellement importantes, il faut avoir acquis cette connaissance de Dieu, évoquée plus tôt, qui rend étonnamment sensible au regard que le Seigneur, lui, porte sur tout. Or, nous l'avons vu, c'est en l'aimant toujours plus que nous parvenons à cette connaissance. Ainsi, la deuxième raison pour laquelle il importe tant que notre amour pour Dieu abonde de plus en plus, et que c'est en l'aimant toujours plus que nous nous rapprochons de cet autre objectif majeur qui nous est proposé, savoir la capacité de bien juger les choses et de ne nous préoccuper finalement que de celles que Dieu nous a désignées comme étant les meilleures et pour nous-mêmes et pour les autres. Mais il est une autre raison encore qu'il nous faut évoquer maintenant, pour laquelle il faut que notre amour pour Dieu ne cesse de s'enrichir. Parce que c'est en l'aimant toujours plus que nous peaufinons notre préparation pour le jour de Christ. Ce que je demande dans mes prières, écrit Paul, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et nous touchons là un point important dans la pensée de l'apôtre, et donc de Dieu lui-même, qui lui inspire ces lignes. la perspective du jour de Christ. À quelle perspective, répète-t-il, à l'envi doit déterminer notre façon de vivre aujourd'hui, ce matin. Pourquoi ? Très simplement, parce que ce jour à venir, faut-il le rappeler, est aussi un jour de jugement. Il est donc indispensable que nous nous y préparions très sérieusement et que nous le fassions dès maintenant, dès aujourd'hui. Comment ? Eh bien, Paul nous dévoile ici une partie au moins de la réponse, une partie. En brûlant dès à présent d'être trouvé à la fois pur, irréprochable et rempli du fruit de justice. Quel programme ? Pur d'abord, pur. L'étymologie de ce mot n'est pas claire. D'aucuns se demandent cependant s'il n'aurait pas un rapport avec le nom soleil. D'où l'idée de limpidité, de transparence, de pureté qui lui est souvent attachée. Pur donc au sens de limpide, c'est-à-dire simple, non mélangé. Ainsi, nous préparer sérieusement au jour de Christ signifie pour nous retourner chaque jour vers celui que nous considérons comme notre Seigneur, afin de nous offrir à nouveau tout entier, sans partage, pour son service. Sans partage. Dieu abhorre les cœurs partagés, partagés entre plusieurs maîtres. Et ma prière ce matin est qu'aucun d'entre nous n'appartiennent jamais à leur nombre. Il ou elle pourrait le regretter amèrement au jour de Christ, pur, sans partage et irréprochable. C'est-à-dire ici ce qui ne provoque pas de scandale, qui ne sont pas une pierre d'achoppement pour les autres. C'est le sens du terme retenu par l'auteur de notre lettre. Nous préparer sérieusement au jour de Christ signifie donc également pour nous porter une attention toute particulière à l'effet que produisent sur ceux qui nous entourent nos paroles et nos actes. Nous préoccuper de cet effet-là. À éviter à tout prix tout ce qui risque de faire chuter l'autre. Autrement dit, de le détourner de Dieu ou de l'inciter à pécher. À rechercher plutôt tout ce que nous savons propre à encourager, à fortifier, à édifier celui ou celle que le Seigneur nous a donné comme prochain et qui n'a pas encore acquis notre maturité spirituelle. Irréprochable donc. Et puis rempli du fruit de justice. Quelques mots au sujet de ce fruit, de sa nature déjà. Et vous ne serez pas étonné si je vous dis, vous qui m'avez entendu quelques fois au cours de ces dernières années, si je vous dis que pour ce qui me concerne, je n'hésite pas un instant. Le fruit dont Paul parle ici est celui qu'il appelle par ailleurs, et notamment dans sa lettre aux Galates, le fruit de l'esprit. Et qu'il décline ainsi, souvenez-vous, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Telles sont à n'en point douter quelques-unes des vertus cardinales que l'apôtre nous appelle à cultiver avec un soin tout particulier dans la perspective du jour de Christ. Voilà, je crois, pour la nature de ce fruit. Son origine, maintenant. Verset 11, ce que je demande dans mes prières, c'est que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Le rappel est utile. Un tel fruit ne peut être le résultat de nos efforts, quelle qu'en soit l'intensité. C'est Jésus-Christ qui le produit en nous. dans la mesure, bien sûr, où nous vivons en étroite communion avec lui et avec son Père. Celui qui demeure en moi, expliquait-il à ses disciples, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, mais celui-là seulement. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Assez pour l'origine de ce fruit, un mot enfin de sa finalité. Sa finalité. Fin du verset 10 et verset 11 à nouveau. Ce que je demande dans mes prières, c'est que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Et Paul ajoute, à la gloire et à la louange de Dieu. Sa finalité donc, au jour de Christ, la gloire et la louange de Dieu. Le langage de Paul indique assez nettement que ce fruit dit de justice ne sera visible dans sa plénitude qu'à l'avènement de Christ, qu'à ce moment où il se dévoilera enfin et paraîtra dans tout l'éclat de sa gloire. Alors, mais alors seulement, la récolte, pour reprendre l'image choisie ici par l'apôtre, la récolte sera complète et nos greniers pleins, regorgeant d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ aura enfin achevé l'œuvre de recréation qu'il a commencé de réaliser en nous par son esprit, et qu'il poursuit ce matin dans la vie de chacun. Reste la question, pourquoi faut-il que ce fruit paraisse ainsi, à la fois parfait et abondant au jour de Christ ? Tout simplement pour que Dieu soit glorifié. Pour que Dieu soit glorifié et béni. À la gloire et à la louange de Dieu. Quels sont les termes par lesquels Paul clôt sa prière ? Une sorte de doxologie dont l'intérêt ici est qu'elle nous rappelle en même temps qu'aux Philippiens que notre vocation suprême et ultime en tant que croyant est de glorifier Dieu. Glorifier Dieu et lui seul. C'est-à-dire, là encore, je reprends un des thèmes que j'ai le plus souvent développé ici même, c'est-à-dire très simplement l'exprimer nous-mêmes. Glorifier Dieu, c'est l'exprimer nous-mêmes. Ou si vous préférez, le donner nous-mêmes à voir et à entendre. De telle sorte que ceux qui nous découvriront ce jour-là ne pourront qu'improviser dans l'instant un hymne éclatant et immense et profond en son honneur. Il faut conclure. Mes amis, la gloire de Dieu, sa réputation, son renom, nous importe-t-il comme il le devrait ? Et si oui, quelles mesures pourrions-nous prendre aujourd'hui, ce matin ? Pour que demain, les hommes et les femmes que nous rencontrons ne puissent plus nous regarder sans éprouver aussitôt le besoin impérieux de célébrer celui à qui ils ont eu la lucidité d'attribuer sans hésiter notre prodigieuse métamorphose. Quel projet pourrions-nous concevoir ce matin déjà ? Et tout au long de la nouvelle année, si le Seigneur nous l'accorde, pour nous assurer qu'au jour de Christ, l'univers entier n'aura qu'un désir, exalter le savoir-faire autant que la grâce de celui qui, d'ici là, sera enfin parvenu à faire de nous, les hommes et les femmes, non seulement purs, irréprochables et remplis du fruit de justice, mais encore sensibles et avisés. Et si la bonne réponse était, une fois encore, aimer, aimer Dieu. Et faire de cet amour notre grand projet. Pour les jours, les semaines, les années peut-être à venir. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Et l'aimer comme Paul nous y a exhorté ce matin. D'un amour chaque jour un peu plus profond, d'un amour chaque jour un peu plus vif, d'un amour chaque jour un peu plus intense, d'un amour chaque jour un peu plus ardent. Puisse cette ambition, l'aimer lui d'un amour qui ne cesse de grandir, nous caractériser tous, dès maintenant et pour toujours. Car c'est en l'aimant ainsi et pas autrement, que pour être parvenu à une meilleure connaissance, avoir acquis un plus grand discernement et peaufiner notre préparation pour le jour de Christ en nous révélant toujours plus purs, irréprochables et remplis du fruit de justice, que nous accomplirons vraiment notre vocation première, servir la réputation de Dieu. Servir la réputation de Dieu. Aimons donc. Aimons-le, lui en particulier, d'un amour qui n'en finit pas de s'enrichir avec le temps. Et qu'ainsi son nom, et lui seul, soit béni éternellement.